VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
16h à Nouakchott, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En RCA, au moins 45 morts. Tel est le tout dernier bilan des combats entre groupes armés dans le nord et le sud du pays depuis juillet, selon les populations locales et les humanitaires. Des violences qui ont conduit le secrétaire adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a parlé hier à l'ONU de signes avant-coureurs de génocide dans le pays. À Batangafo, dans le nord-ouest, il y a eu 24 décès, dont 14 civils, lors des affrontements entre groupes armés du 29 juillet au 2 août, souligne l'agence humanitaire onusienne, en précisant que la situation sécuritaire est maintenant relativement calme dans la région. OCHA fait également état d'une dizaine de morts et de 7 blessés lors des combats entre groupes armés le 4 août dans un village à 7 km d'Alindao dans le sud du pays. D'autres accrochages à Ngaunda et à la frontière avec le Tchad et le Cameroun ont fait au moins 10 morts entre le 7 et le 10 juillet et forcé près de 7000 personnes à chercher asile en territoire camerounais. Depuis la semaine du 10 juillet, nous avons recensé 6885 nouveaux réfugiés en provenance de RCA, a déclaré aujourd'hui à l'AFP Alexandre Sarr, chef de mission du ACR à Meiganga au Cameroun. Au Kenya, fermeture des bureaux de vote aux élections générales de ce mardi, mais la Commission électorale nationale a annoncé que les personnes déjà dans les files d'attente seront autorisées à voter après la clôture du scrutin. Quant aux bureaux qui avaient ouvert tardivement, ils resteront ouverts pour une durée équivalente au retard pris. Mais les premiers résultats provisoires ont commencé à tomber en fin d'après-midi. Les Kenyans choisissent leur président, gouverneur, sénateur, député et élus locaux. La commission électorale dispose de 7 jours pour déclarer les vainqueurs, une étape redoutée par de nombreux observateurs car susceptible de déboucher sur des troubles, 10 ans après les pires violences électorales enregistrées dans cette ex-colonie britannique depuis son indépendance en 1963. Le scrutin d'aujourd'hui s'est globalement déroulé dans le calme et sans grand problème technique, malgré quelques difficultés liées à l'identification biométrique des électeurs. Pour de nombreux observateurs, la crédibilité du scrutin repose sur la fiabilité de ce système biométrique et de transmission électronique des résultats. Le bon déroulement du scrutin a valu à la commission électorale les félicitations de la coalition d'opposition, celle-ci qui n'avait pourtant pas ménagé ses critiques à son encontre lors de la campagne s'est dite largement impressionnée par le travail de la commission électorale. A noter qu'à la présidentielle, le chef de l'État Uhuru Kenyatta fait face à son grand rival Raila Odinga, 3 fois candidat malheureux à la magistrature suprême.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
En Afrique du Sud, les députés ont commencé à voter au Parlement du Cap sur une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. L'opposition espère qu'un certain nombre de députés de l'ANC au pouvoir va lâcher le chef de l'État sud-africain, Morgan Gioyek.
La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a annoncé hier que le vote se fera à bulletin secret. L'opposition est convaincue de pouvoir retourner des députés de l'ANC si ces derniers ne subissent pas la pression d'un vote à main levée. La motion de défiance pour passer doit recueillir la majorité simple à 201 voix sur les 400 au Parlement. Forte de sa confortable majorité de 249 sièges, l'ANC s'est empressée d'assurer qu'il n'y a aucun doute sur l'échec de cette mesure. Le Parti communiste, allié de l'ANC, a réitéré son appel à la démission du président Zuma, sans pour autant donner de consigne de vote. Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a déjà survécu à 3 motions de défiance. En décembre prochain, l'ANC doit élire son successeur à la tête du parti. Parmi les favoris, l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, qui bénéficie du soutien de son ex-mari.
Et pour terminer, au Sénégal, 10 supporters de foot ont été interpellés après les incidents qui ont fait 8 morts et des centaines de blessés à la mi-juillet à Dakar lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Ces supporters de l'Union sportive Wakam, équipe mise en cause dans ces échauffourées et suivie d'un mouvement de panique, ont été appréhendés lundi pour meurtre, coups et blessures volontaires et placés en garde à vue. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Nathalie Barge pour la Minute Écho. Côte d'Ivoire, 232 milliards de francs CFA ont été payés à près de 4000 entreprises afin de régler la dette intérieure du pays, a confirmé dimanche le président Alassane Ouattara à la veille de la fête de l'indépendance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait révélé le mois dernier le décaissement de cette somme au cours d'une rencontre avec des chefs d'entreprise. Nigeria, la société pétrolière Shell, indique avoir remis 10 millions de dollars à l'agence chargée de la restauration des sites après une pollution de la zone d'Ogoni dans l'état de Rivers. Le directeur de la SPDC, Igo Welly, a souligné que 15 sites avaient été remis en état et que les normes sur les méthodes d'assainissement avaient été relevées conformément aux meilleures pratiques dans le secteur pétrolier. Plusieurs scientifiques africains prennent part à la conférence mondiale des humanités qui a débuté dimanche jusqu'au 12 août à Liège, en Belgique. Organisée par l'UNESCO, cette conférence s'articule sur des thèmes comme l'homme et l'environnement, le patrimoine culturel, la migration et les sciences humaines dans un monde en transition.